visiter leurs proches détenus. Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Et puis on termine avec Google qui lancera Stadia, sa plateforme de jeux vidéo en streaming le 19 novembre prochain. L'annonce a été faite tout à l'heure à New York. Elle proposera au départ un catalogue d'une trentaine de jeux. Cette plateforme de jeux vidéo, la grosse nouveauté du jeu en ligne par rapport aux jeux classiques sur console, ce sera la possibilité de jouer indistinctement sur tous les supports, ordinateur, télé ou smartphone RFI. 18h10 dans quelques secondes ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G, la quotidienne des actualités culturelles et locales. Le mardi, l'émission est consacrée à nos partenaires et le troisième mardi du mois, c'est le Centre culturel Jean Carmet à Muré-Rigné qui est avec nous. Ce soir, nous allons parler de deux spectacles qui auront lieu au mois d'octobre, car il reste encore du temps dans ce mois. Tous vos sens seront mobilisés le 26 avec des gourmandises sur l'étagère par la compagnie La Sensorielle. Et le 24 octobre, le matin, ce sont les plus jeunes, les enfants, qui auront rendez-vous avec leur propre concert avec le bal des petites bêtes par Jacques Livenet. On en parle ensemble jusqu'à 18h50. Ici Annelie derrière le micro. Et avec moi, comme chaque mois pour le Centre culturel Jean Carmet, il y a Maude. Bonsoir Maude.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là tous les mois.
Avec plaisir.
Nous sommes avec Jacques Livenet. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc on va parler chansons pour les plus jeunes. Et nous sommes aussi avec Raphaël Delaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on va parler gourmandise et plein de sens en deuxième partie d'émission.
J'espère.
Mais vous avez le droit de réagir même dans la première partie.
D'accord.
Maude, à tour des infos hyper capitales, avant de parler de ces deux spectacles à transmettre, ou toi ça va?
Hyper capital, dire déjà que le bal des petites bêtes, ça se remplit très très vite, donc
ça, vous
aurez très envie de venir encore plus après l'émission, donc il faudra réserver très vite.
Mmh.
Et que voilà, que nous ces deux spectacles... qu'on est super contente d'accueillir parce que ça a été des coups de cœur les deux. Donc voilà, on invite tout le monde à venir, bien sûr.
Et maintenant, on va en parler. Alors, le bal des petites bêtes, donc c'est pour les enfants. Jacques Livenet, c'est vous qui l'avez créé,
oui.
Ce spectacle. C'est pas votre premier spectacle pour enfants ?
Non, c'est le deuxième exactement. Le premier s'appelle La boxe à Jacques et là, je suis seul en scène.
Mmh.
Et sur le bal des petites bêtes, on est trois. Il y a moi donc à la guitare et au chant. Il y a un contrebassiste, François Marsa, et un percussionniste, Quentin Juillard.
Je dis bien
Quentin Juillard parce qu'on a fait une erreur sur nos documents et il s'était devenu Kevin Juillard.
Non,
il s'appelle Quentin Juillard, pour soit bien clair.
Et comment est né le bal des petites bêtes ? Est-ce que c'était en faisant le premier spectacle pour les plus jeunes ou vous avez adoré ?
Oui, en faisant le premier, c'est quasiment les mêmes chansons. Il y en a un peu plus sur le bal des petites bêtes. Et comment dire, c'était histoire d'étoffer un petit peu mon univers jeune public.
Mm-hmm.
qu'il prenne une dimension plus importante, avec, enfin, pour ceux qui viendront, ils pourront voir qu'il y a des projections, il y a des illustrations animées, et puis beaucoup de musique, forcément.
Est-ce que, du coup, moi, forcément, Petite Bête, je pense les petits animaux, les petites choses. Qu'est-ce que vous racontez dans ces chansons-là?
Alors, les petites bêtes. Et d'abord, la première chanson est une chanson pour dire bonjour. On se dit bonjour toujours en concert. Mmh. Ensuite, il y a l'histoire d'un petit chat qui, par exemple, qui sont ses amis? Ses amis, ce sont les souris. Alors, son papa n'est pas très content, forcément. Sa maman, elle dit, c'est pas grave, écoute, l'important, c'est que tu manges à ta faim. Tant pis, si tu ne manges pas de souris, tu manges autre chose. Voilà. Par exemple, il y a une chanson sur les gros mots qui s'appelle Le Dromadaire. Je vous en dis pas plus. Hein.
Oui, oui.
Il y a une chanson sur les chaussettes, par exemple, parce qu'il y a des petites bêtes dans les chaussettes. Quand on a un trou dans la chaussette, il y a une petite bête qui sort, voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le bal des petites bêtes, évidemment. Le bal des petites bêtes, c'est plein de petites bêtes, tout d'un coup, qui sont près d'un arbre et qui se mettent à danser et qui nous invitent à les rejoindre.
À chaque fois, ça parle de... Évidemment, on part de l'univers des enfants, des plus jeunes, de ce qu'on peut imaginer aussi.
Oui, et puis les animaux, c'est... En fait, les premières chansons que j'ai faites pour les enfants, c'était avec des histoires d'animaux, parce que c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. On peut très vite communiquer avec les enfants dès qu'on parle d'animaux.
Et pourquoi vous êtes musicien, auteur, interprète? Vous n'avez pas écrit tout de suite pour les plus jeunes, pour le plus jeune public?
Non.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette envie, cette idée-là?
Quand j'ai eu des enfants. En fait, au départ, c'est parti de ça. Hein. J'ai écrit des chansons à mes filles quand elles étaient petites. Et puis, je les avais mis de côté. J'ai dit, bon, voilà, elles sont grandes, elles grandissent, ça ne les intéresse plus. Et puis, un jour, une amie qui travaillait dans une crèche m'avait demandé, tu ne pourrais pas venir chanter parce que, bon, moi, je veux bien, mais je n'ai jamais fait ça. Alors, j'ai pris ces chansons que j'avais en réserve et puis j'aurais chanté et ça a bien marché. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser par là. Et depuis... Je fais des chansons pour enfants.
Et j'imagine qu'il faut un petit peu adapter toute l'écriture, la composition. Enfin, est-ce que ce que vous proposez dans ces chansons-là pour les plus petits et ce que vous avez pu faire pour tous les autres, c'est très différent?
Oui, alors le danger dans la chanson comme ça pour le petit, c'est d'être facilement soit abêtisant ou...
De le prendre pour simple, une personne qui ne comprend rien du tout.
Vouloir faire trop simple, ça devient ridicule.
Ouais.
C'est ça la difficulté, hein, c'est d'avoir toujours un propos qui soit simple pour que les enfants comprennent. Même s'il y a quelques mots qui seront peut-être plus difficiles à comprendre, mais c'est pas grave, ça fait pas, il va comprendre ce qu'il veut. Mais oui, il y a un vocabulaire simple à avoir, mais en même temps qu'il soit digne de leur écoute.
Oui, parce que les enfants comprennent plein de choses.
Oui, oui, oui. Et on le dit même, oui, les enfants, c'est pas que verbal, hein, ça va être, y a des chansons à gestes par exemple, y a des chansons où il y a des projections parce que le texte est peut-être un peu plus difficile à comprendre s'il n'y a pas une illustration avec. Donc tout ça c'est réfléchi, c'est pensé, voire calculé quelquefois.
Et est-ce qu'il y a des idées que vous avez envie de transmettre aux enfants, des atmosphères, un regard sur le monde?
Oui, bah oui, forcément, mais sans forcément avoir un message vraiment officiel. Mmh. Mais oui, c'est vrai que quand je parlais de la chanson sur le petit chat, c'est un petit peu le droit à la différence, quoi. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des chats qui aiment bien les souris. Normalement, on dit qu'un chat n'aime pas les souris et qu'il les mange. Moi, je fais un petit personnage qui, lui, c'est le contraire. Une chanson qui s'appelle Goutte, qui est sur la pluie qui tombe, avec l'image d'un enfant qui est à l'intérieur de sa maison, bien au chaud, et qui voit la pluie tomber. C'est aussi se dire, oui, j'ai de la chance d'être dans une maison où il fait chaud et je ne suis pas sous la pluie, par exemple. Des petites choses comme ça. Mais...
Oui, sans que ce soit trop fléché. Ou...
Voilà, faut pas non plus, c'est pas trop marqué non plus. Mais... j'aime bien aussi. Parler d'empathie, de choses comme ça. Mais je crois que les enfants, on le sait, ils ont de l'empathie quand ils sont petits. Et puis à un moment, on leur dit « Ah non, faut pas parler aux étrangers, voilà, et tout ça. » Donc ils la perdent un peu, ils savent plus. Donc ils la retrouvent peut-être adulte, mais ça vient, ça, l'empathie.
Ouais. Est-ce que c'est difficile d'écrire pour ce public-là ?
Bah, oui et non. Dans un premier jet, non, c'est pas difficile. Et puis ce que je disais tout à l'heure, je vais me répéter, mais c'est de voir ce qui va pas être trop ridicule, ou parce que c'est vite venu, hein, d'écrire quelque chose. On veut quelque chose de simple et on se dit mais c'est niais un peu là ce que j'ai écrit, donc on l'oreille.
Ouais, moi ça me paraît difficile.
Voilà, enfin, ça reste le jeune public, ça reste un public très exigeant et il faut pas les tromper, faut pas se foutre d'eux, quoi.
Et justement, pour les embarquer dans votre univers, dans les chansons, on parlait un petit peu des thématiques, des sujets, ça peut être les animaux, l'empathie. Et puis, il y a aussi, vous l'évoquiez, des projections, des dessins. Comment ça intervient aussi dans ce bal des petites bêtes ?
Alors, les illustrations, d'abord, sont des illustrations qui sont sur l'album et qui ont été faites par Raphaël Penaud, qui est une artiste illustratrice angevine et que je connais très bien, et depuis longtemps on cherchait un projet commun, on trouvait pas, et puis je me suis mis à faire des chansons pour enfants, et j'ai dit ah ben voilà, on va pouvoir travailler ensemble, ce qui s'est fait. Elle a fait mon premier album, Le Bal des Petites Bêtes, le second qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Mamouna et la fleur sans terre, et elle fera le prochain, dans toujours l'idée étant d'avoir une identité toujours la même, que les gens reconnaissent un petit peu le travail.
Donc en fait, c'est un projet qui se déploie musicalement et graphiquement,
oui,
visuellement.
Oui, c'est très important. Mais même si moi je dirais que que ce soit le bal des petites bêtes ou les autres spectacles, c'est des travaux d'équipe. Je suis pas tout seul, quoi. Je vous dis, sur scène, sur le bal des petites bêtes, il y a deux musiciens, il y a un technicien, un régisseur son et lumière, il y a l'équipe locale des lieux qui nous accueille. Donc tous ces gens-là participent au bon fonctionnement et à la réussite du spectacle.
Et il y a aussi des moments où vous faites des gestes, des mimes. Oui. Enfin, il y a aussi votre corps qui est en jeu. Pour,
oui.
Pour.
C'est pas de la danse, mais.
Mais en tout cas, je pense que ça fait réagir les enfants.
Mais c'est important, oui. Les enfants sont très sensibles à tout ça, oui, effectivement.
Donc, qu'est-ce que vous faites sur scène ?
Bah, par exemple.
La chorégraphie.
Non, il y a une chanson qui s'appelle. J'ai perdu ma cuillère, ou peut-elle se cacher, donc je vais mimer une cuillère. Après, j'ai perdu ma fourchette, donc je vais mimer une fourchette, etc. C'est des choses comme ça, toutes simples, hein, mais qui sont complémentaires. Moi, je ne crois pas à me planter devant les enfants, chanter des chansons comme ça devant un micro. S'il se passe que ça, très vite, ils vont décrocher.
Oui, il faut vraiment s'adapter, ouais, à leur écoute.
Ben, c'est pas s'adapter, c'est qu'il faut leur communiquer avec eux de plusieurs façons. Comme je disais tout à l'heure, soit parce qu'il y a des illustrations qui vont accompagner la chanson, soit des chansons à gestes, ou soit on va les faire participer sur une chanson, ce qui est le cas aussi.
Et ce bal des petites bêtes, on peut venir le voir à partir de l'âge de 2 ans.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait ? Enfin, j'imagine de jouer devant des tout, tout petits, comme ça.
Et même des fois, ça m'arrive de chanter devant des enfants plus petits que ça encore. Qui ont 6 mois, j'arrive, des fois je chante, comment ça s'appelle les petits...
Des couffins, non,
pas les couffins, les...
Des landos.
Non, c'est pas les landos non plus.
Des couveuses.
Non, c'est pas les couveuses. Enfin bref, c'est des sortes de petits sièges qu'on met dans les voitures, tout ça, qu'on les promène avec ça dedans. Et des fois, j'en ai plein devant moi, comme ça, et je m'accroupis... volontiers pour chanter devant ces petits cœurs.
Ouais, et est-ce que vous avez des retours de ce public qui est jeune mais qui est exigeant, qui écoute aussi ?
Oui, les gens, comme on va voir les enfants à la fin du concert, on va toujours les retrouver dans le hall d'entrée. Bon, on voit bien qu'ils sont réjouis, souvent ils sont contents.
Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous apprenez en jouant ces chansons pour eux ?
Je réfléchis pas comme ça, je me demande pas qu'est-ce que j'apprends, non,
quel plaisir.
Oui, non, c'est plutôt, à chaque fois, c'est quand je les rencontre, j'ai la conviction que je suis dans la bonne voie, que j'ai bien choisi, que je suis bien à ma place, en fait, c'est ça me renvoie.
Moi, ça me donne envie d'être un peu plus jeune, mais on peut venir un peu même si on est adulte.
Oui, oui, oui.
Viens, Ali, viens nous voir.
je redonne la date hein, pour le bal des petites bêtes. Pour toutes les personnes qui ont envie de le découvrir, ce sera le jeudi 24 octobre à 10h30 au Centre culturel Jean Carmet. Maud, Raphaël, je ne sais pas si vous vouliez réagir à ce qu'on a dit un peu autour de ce spectacle avec Jacques.
Juste, moi, je voulais préciser que justement, on a la chance aussi, on va pouvoir exposer les tableaux de Raphaël Penaud.
Oui.
Oui, c'est ça, Raphaël. J'avais un doute, parce que Raphaël, je me suis dit...
Les tableaux seront exposés à la fin du concert. C'est-à-dire que les enfants les découvrent qu'à la fin.
Voilà.
Voilà.
C'est la surprise, la cerise sur le gâteau.
Trop bien.
Oui, puis moi, je trouve que j'ai fait des spectacles pour enfants. Et en fait, j'appellerais ça des spectacles tout public, moi.
Oui.
Et... Parce que c'est pas des petits spectacles, c'est des spectacles. Et les enfants, ils ont la même aptitude que nous à savoir si c'est bien ou pas, très vite. Voilà.
Faut pas aller prendre... Même parfois, ils sont plus ouverts que nous à se laisser embarquer dans des univers un peu loufoques. Nous, on cherche toujours à être un peu rationnel, mais on le voit vachement avec les scolaires. C'est plus c'est loufoque, plus ça marche, quoi.
Ouais. Et je dirais que c'est ce qui me plaît aussi dans la composition des chansons pour enfants, c'est qu'on peut aller dans toutes les directions possibles en disant de toute façon, oui, ça va les intéresser si c'est bien fait.
Oui, c'est des vrais spectateurs et spectatrices. Je vous propose d'écouter une de vos chansons, Jacques Livenet, c'est Rouge Citron que j'ai choisi.
Allons-y.
Parce que je la trouve super.
Bleu, le ciel est bleu, 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 la mer est bleue aussi, aussi. Noire nuit coule le soir, nuit black, tout est noir, sauf le chat qui est gris. Qui sourit dans la nuit?
Une souris? Où ça?
Non, pas une souris. Un chat gris. Un chat gris qui sourit dans la nuit.
Ah, d'accord, d'accord.
Hello, yellow. Yellow sun, hello. Jaune, 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 jaune. Jaune, 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 jaune. Bleu, vert, c'est la rivière et la lumière des pierres. Green, green.
Entrez.
Mais non, idiot. Green, c'est une couleur. Green, c'est vert, c'est clair.
Non, foncé.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis green, c'est vert foncé.
Ah non, green, c'est vert clair.
Foncé.
Clair.
Foncé.
Clair.
Foncé.
Green, c'est vert, c'est clair.
Non, c'est pas clair.
Monsieur, c'est clair.
Non, c'est vert. Vert.
Rouge.
Ballon.
Rouge.
Poisson.
Rouge.
Pompon.
Rouge.
Citron.
Bah, mais non. Un citron, ce n'est pas rouge.
Ah bon? C'est quelle couleur?
C'est jaune. Le citron est jaune.
Et le citron vert, c'est quelle couleur?
Eh bien, c'est vert. Vert foncé.
Non, vert clair.
Non, foncé.
Ah, ça va pas recommencer.
Ouh, 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 ouh. Le ciel est bleu, 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 la mer est bleue aussi. Sauf le chat qui est gris, hello, qui sourit dans la nuit, yellow, yellow sun, hello. Rouge,
ballon,
rouge,
poisson.
Rouge.
Pompon.
Rouge.
Citron.
Bah non.
C'est pas rouge un citron.
On entendait un extrait du Bal des petites bêtes par Jacques Livenet et qui sera au Centre culturel Jean Carmet le 24 octobre à 10h30 et on peut venir à partir de l'âge de 2 ans et sans limite. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G et moi je suis toujours accompagnée dans les studios de Maud, de Jacques Livenet qu'on vient d'entendre et de Raphaël Delaine. Et maintenant on va... J'ai pas dit de bêtises. J'ai eu un bug. Maintenant, on va parler du spectacle Les Gourmandises sur l'étagère, qui lui sera le 26 octobre, toujours à Jean Carmet, à Muret-Rignier. Et Raphaël, alors vous, sur scène, vous avez une recherche, démarche, plein de choses autour de différents médiums mélangés ensemble.
Parce que c'est une pièce qui pourrait être presque radiophonique, parce que moi je m'adresse à des grands enfants.
Ouais.
C'est un peu le but hein. Au départ c'était de retrouver la sensation de, qu'on a quand on est petit et qu'on nous raconte une histoire avant de dormir. C'est un peu, si je mets les gens dans cet état là ça me fait assez plaisir. Ça m'est même arrivé qu'il y en ait un ou deux qui s'endorment, mais je trouvais ça plutôt chouette en fait. Mm. Parce que ça veut dire qu'ils étaient bien, mais comme je voulais pas que ça soit que radiophonique, j'ai fait appel à d'autres sens. Donc il y a de l'image, des choses très contemplatives, enfin de l'odeur, et puis après souvent il y a une petite chose à grignoter, ça s'appelle des gourmandises sur l'étagère quand même, pour faire vraiment appel à tous les sens. Une fois le spectacle fini, j'ai l'impression qu'il continue encore, c'est ça, la sensation que j'aime bien.
Vraiment le point de départ du spectacle, de mobiliser au maximum tous les sens, pas juste la vue, l'ouïe, les choses habituelles.
Voilà, tout à fait, et puis c'était... J'ai lu, j'ai entendu que c'est comme ça qu'on apprenait le mieux. Quand on joue, par exemple, on fait appel à tous les sens. Mmh. Les enfants, ils font beaucoup ça, ou les animaux. Et c'est comme ça qu'on retient les choses. Il faut que ça soit, y a un côté ludique, quoi. J'essaye de donner ça. Voilà.
En préparant l'émission et en voyant comment le spectacle vraiment va chercher plein de choses pour parler à tous les sens, on va y revenir. Moi, ça m'a rappelé aussi une expérience de cuisine. En fait, où un chef cuisinier, je ne me rappelle plus de son nom, a fait des recherches pour permettre aux personnes qui n'avaient plus le goût de retrouver la sensation du chocolat. Et en fait, ça se passait en allant mobiliser tous les autres sens, la couleur, les sons, les histoires, etc. Et en fait, par le biais de toutes ces mémoires-là, les personnes arrivaient à avoir vraiment cette sensation de goût-là par leur cerveau qui retravaillait avec ces autres choses.
Bah, de le retrouver, c'est intéressant parce que nous, on diffuse des odeurs. Alors, je ne vais pas dire lesquelles parce que justement, c'est le jeu. Mais... c'est un sens qu'on fait pas fonctionner beaucoup. Et alors, il y a des gens qui sentent toutes les odeurs, il y a des gens qui sentent presque rien, puis il y a des gens qui inventent des odeurs parce qu'ils sont sûrs de l'avoir senti. Et pourtant les odeurs sont là. Je suis sûr que le cerveau le sait lui, mais la conscience plus ou moins. Et comme ça, on a l'impression que je raconte très bien les histoires parce que les gens en plus ils sentent quand je raconte du chocolat, ils sentent l'odeur.
Les Gourmandises sur l'étagère, c'est aussi un spectacle qui part d'un texte de Françoise Moreau.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce texte-là ? C'est des tranches de vie, il y a deux personnages, enfin, qu'est-ce qu'on y retrouve ?
Alors, c'est l'histoire de petites gens, et c'est, quand je dis petites gens, c'est pas du tout négatif quand je dis ça. Qui vont vivre une tranche de vie avec leur fille. Et puis d'autres gens autour, parce qu'il y a des personnages secondaires. Ils ont une vie comme la nôtre, je vais dire ça comme ça. Et par petites touches, avec l'air de pas y toucher, il se passe des choses dans leur vie. Et puis petit à petit, parce que c'est aussi drôle, des fois on a envie vraiment de rigoler, puis des fois on a presque la larme à l'œil, alors que ça reste très poétique, ça a l'impression de survoler les choses. Mais c'est un texte, moi, qui m'a surpris comme ça. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, on se dit, ouais, c'est chouette, bon, ok. Et puis, pas plus que ça. Et le lendemain, il y a deux, trois phrases qui reviennent. Puis le surlendemain, il y en a encore d'autres. Donc on va revoir quand même, on se dit, c'est bizarre, c'est quoi ce texte. Et moi, je connais des gens qui sont venus le voir plusieurs fois. Parce que de temps en temps, c'est un texte où des fois, c'est pour ça aussi qu'il y a des images, des odeurs. Le cerveau, il part autre part, mais c'est pas grave. Il revient à l'histoire. Mais ils ont l'impression d'avoir loupé quelque chose, et ils ont loupé quelque chose, mais enfin, ils ont aussi pris autre chose. Donc ils reviennent pour le réécouter vraiment, pour se dire, il y a des choses qui les titillent, ils viennent voir, et puis il y a les pupilles, tout ça. Enfin, bon,
ouais,
voilà.
Parce que l'écriture aussi de Françoise Moreau est très imagée.
C'est beaucoup de tableaux.
Ouais.
C'est pour ça que c'est pas du tout illustratif ce qu'on fait nous. Parce que c'est pareil, je suis tout seul sur scène, mais on est trois. Enfin, il y a eu plein de participants à cette chose-là. Et nous, on ouvre juste d'autres portes, mais surtout on n'illustre pas parce qu'on se serait refermé tous les tableaux qu'elle nous donne. Parce qu'il y a Marie, Gabrielle et Odilon.
Donc,
et si
personnages...
je commence à vous les décrire, vous allez avoir une image tout de suite.
Et il ne faut pas alors.
Ah si, je peux commencer, je peux vous faire un tout petit bout. Si
bah ouais, voulez. Moi j'aimerais bien.
D'accord. Alors, comme ils l'ont dit ce matin à la dame de la poste, qui courait après son Pékinois, Odilon Diolfi et son épouse, née Marie-Gabrielle Isbéenne, s'en vont pique-niquer dans l'île. La dame a répondu qu'ils avaient bien raison, qu'il faut toujours courtiser les premiers beaux jours de mai. Odilon repose sur le flanc droit, la tête posée sur son coude. Immobile, massif, il pèse sur la terre comme les bêtes lourdes au bord des marigots. Sa veste de tergale déboutonnée, son ventre avantageux déborde dans les pâquerettes et le plantain. Une colonie de fourmis a entrepris l'ascension de son arrière-train et se décourage, bien avant le point culminant de la hanche et la descente sur les promesses alléchantes des assiettes. Marie-Gabrielle repose sur le flanc gauche, ses chairs exubérantes vaguement contenues dans une robe de satin coquelicot. Ouais, je pense qu'on commence à les voir un petit peu.
Ouais. Et donc là, c'est un tout petit extrait des gourmandises sur l'étagère. Vous êtes seul en scène, mais là, on n'a que le son, les personnes qui nous écoutent. Le principe du spectacle, c'est vraiment de mobiliser tous les sens. Comment vous venez compléter, parce que rien que pour le son dans ce spectacle, il n'est pas dit comme habituellement, déclamé.
Non, non, il n'est pas déclamé pour avoir une intimité. Alors ça peut rebuter, parce que je vais le dire tout de suite. Les gens sont casqués, en fait.
Avec un casque audio.
Chacun a un casque audio sur la tête. Pas trop lourd, je vous promets. ce qui permet de chuchoter, de même verser un verre de bière et d'entendre la mousse, de croquer un chips et d'entendre ça. Et puis, parce que j'ai essayé de le faire en déclamant. Mmh. Et ça, enfin, moi, je ne sais pas le faire. Sur ce texte-là, j'y arrive pas. Ça passe pas. Alors que j'ai envie que la 162e personne en haut à droite, c'est pour elle, que pour elle aussi. Donc ça permet des choses. Il y a un gros travail de son. C'est Mathieu Delaunay qui fait de la musique et du son. C'est son métier depuis longtemps. Qui lui, alors c'est pareil, il illustre pas, mais on va se retrouver sous un orage où on va entendre un caddie sur les pavés, où il y a une voiture qui passe, où il y a un univers, des paysages sonores. Il y a des moments où moi je me tais, c'est que du son. Ce qui permet aussi de respirer, de partir autre part. Et puis il y a des fois, ça illustre aussi, enfin ça illustre non, mais c'est pendant que je parle. Voilà.
Ouais. Les chemins peuvent être parallèles, voilà. Se croiser.
Tout à fait. Et l'image, c'est la même chose. Les odeurs aussi, des fois il n'y a que ça. Il y a une sensation de vent aussi, parce qu'il y a des histoires de voitures, enfin bref.
Donc il y a un peu de toucher avec du vent ou des choses à
oui,
voir.
Oui, ça reste très chaste.
Mais, il y a le son, là on parlait de l'image. Alors comment, il y a une forme d'éventail, il y a des projections, qu'est-ce qu'on peut dire?
Ah, qu'est-ce que je peux dire? Non, je dévoile rien en fait, si je dis qu'il y a un grand éventail
c'est tout.
Qui fait 6 mètres de diamètre, mm-hmm. On va dire ça comme ça, et c'est des images où il n'y a pas d'humain, c'est que de la nature, avec des fois un papillon qui passe, mais il y a un petit peu de vent, puis il y a des reflets, mm-hmm. Ça se passe beaucoup à côté de l'eau, même dans l'histoire. Donc c'est des images qui ont toujours été prises près de Rochefort-sur-Loire, dans un périmètre de 1 km. Mais à toutes les saisons, parce qu'il y a des inondations, et en ce moment c'est l'inverse par exemple. Voilà, et c'était aussi ça. Moi ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous connaissez le film Printemps, été, automne, hiver, printemps, bon bref. Et c'est une histoire de vie, mais c'est aussi une histoire de saison, de renaissance. Il y a tout ça. Enfin, il y a tellement de choses dans ce livre que je ne peux pas vous le résumer. Il faut venir écouter, en fait.
Ouais, j'ai l'impression que le résumé tranche de vie, c'est vraiment peut-être le plus...
Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça, avec tout ce qui peut traverser quelqu'un.
Et est-ce que c'est compliqué d'écrire pour ces différents sens, d'avoir l'écriture olfactive, l'écriture sonore, l'écriture visuelle, tout ça qui se chevauche, qui peut-être parfois, il y en a une qui est plus en avant. Est-ce que ça a été compliqué pour vous la création?
Le plus compliqué, c'est l'odeur. Parce qu'on a... Il y a plein de gens qui essayent d'inventer des choses. Il y a plein de techniques aussi. Nous, on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Moisef, qui a travaillé avec Royal Deluxe. Comment il s'appelle maintenant ? Sculpteur d'arômes. Je trouve ça assez chouette.
C'est beau.
Ça promet. Il invente des odeurs et tout ça. Donc, il nous a fourni des odeurs qu'il a inventées. Après, nous, on a trouvé des techniques assez simples, parce qu'on n'a pas plein de matériel. On voulait que ça soit assez léger aussi. Mais qui font donc cette écriture là elle est pas simple parce qu'en fonction des salles ça change en fonction de la hauteur du plafond, de la chaleur, du nombre de personnes. Donc on est en perpétuel test. Là c'est bien parce que Jean-Carmé, ils ont été hyper chouettes, ils nous ont permis de finir un peu plus tôt, essayer des choses. Donc voilà, c'est très bien parce qu'il y a des choses qu'on a éliminées, d'autres qu'on a ramenées qui vont être différentes des autres fois.
Ça serait écrit presque à chaque représentation.
Alors,
pas entièrement,
parce que justement l'écriture, on peut pas mettre des odeurs trop fortes tout de suite, parce que nous, le problème c'est qu'une odeur elle arrive, mais faut qu'elle parte pour que j'en ai une deuxième. Et surtout, le cerveau oublie très vite. Ça veut dire que je sais plus, c'est en secondes, mais vous le savez tous, quand on va quelque part où ça sent vraiment pas bon, au bout d'un moment, on le sait plus. Notre cerveau, il a dit ok, et il passe à autre chose. Et mais même quand ça sent très bon, c'est la même chose. Donc, il faut créer des surprises. C'est ça qui est le plus techniquement qui est le plus compliqué, voilà. Mais on s'en approche petit à petit.
Et je trouve ça aussi pas évident de s'adresser à tous les sens des spectateurs, des spectatrices qui chacun doivent le recevoir très différemment. Quels sont les retours que vous pouvez avoir? Est-ce que chacun a un petit peu son spectacle à lui?
Alors,
à elle?
Oui. Oui, si. Les retours, ils sont comme ça. Déjà sur les odeurs on est très différents, voilà. Par exemple cette histoire là aussi, il y a des gens qui m'ont presque raconté pas la même histoire en fonction des gens qui viennent m'en parler après. Ils se sont attachés à tel personnage ou tel moment ou telle chose qui arrive à ce moment là et eux ça leur parle beaucoup, et c'est pour ça qu'il est riche ce texte. C'est ce que je racontais tout à l'heure sans me répéter, c'est que moi je trouve qu'il raconte plein de choses et que c'est un texte qu'on peut lire très vite et se dire juste ouais c'est sympa. Et ben non, moi je ne crois pas.
Et le lendemain on se réveille, on se rend compte que c'est pas que sympa.
Alors après le spectacle est sympathique, attention, mais je trouve que c'était Françoise Moreau que j'ai rencontré est quelqu'un qui écrit vraiment très très bien, parce que moi j'avais pas fait de texte depuis longtemps, j'avais travaillé plein d'autres façons différentes avec des danseurs de spectacles pour enfants dans la rue et tout ça, corporel aussi pas mal, et je voulais revenir à un texte mais je trouvais pas la matière, et celui-là à un moment donné c'était évident, j'avais envie de raconter cette histoire-là. C'est pas très actuel, hein. je parle pas des femmes kurdes, je parle pas des migrants, je parle pas de tout ça, mais c'est très actuel justement parce que ça parle à tout le monde. Moi je crois qu'il sera assez intemporel ce texte.
Parce que le récit se situe dans quelle époque?
Maintenant. Ouais, c'est maintenant. Alors au début, on ne sait pas trop, et puis au bout d'un moment, on se dit que c'est maintenant.
De toute façon, même si on parle de choses qui sont mythologiques, pour moi, ça peut être encore très actuel, en fait.
Ah bah tout à fait, oui. Et puis, de toute façon, l'histoire des sentiments humains, ce sera toujours. Qu'on soit chez les Romains ou maintenant, je pense qu'on est un peu traversé. C'est marrant, il y a des philosophes qui sont encore là, dont on cite encore les phrases 2000 ans après. Donc voilà.
Donc peut-être dans 2000 ans, on parlera
des gourmandises sur l'étagère. J'espère pour Françoise Moreau qu'elle aura cette chance.
Et Maud, avant qu'on parle du spectacle, tu disais c'est un coup de cœur aussi.
Ouais. Et quand tu disais tranche de vie, ça paraît assez léger, mais moi, quand j'ai reçu le spectacle, en fait, à travers une histoire du rapport à le plaisir de manger. Y a tout un univers qui se crée et les personnages se dessinent leur façon de manger et leur façon d'appréhender la nourriture. Et vraiment, c'est plus qu'une tranche de vie, c'est en très peu de temps un univers entier avec des personnages très, très construits. En fait, on a toute une psychologie et aussi on comprend qu'est-ce qui se trame derrière ce quelque chose qui paraît très léger qui est la gourmandise, la nourriture, mais en fait derrière il y a des choses très complexes, des liens de famille, voilà. Et donc comme disait Raphaël, c'est vrai que je suis assez d'accord qu'en fait on ressort, enfin moi ça m'a vraiment touchée et je garde ce texte là il est bien bien marqué, quoi. Et du coup, moi, dans ma réception du spectacle, je pense que le sensoriel a participé à, mais c'est difficile pour moi de me dire à tel moment j'ai senti ça ou ça. C'est comme une impression, un voyage, mais c'est du coup comme un tableau très complet. Mais on peut pas dissocier les choses les unes des autres, quoi. Je peux pas dire j'ai vu ça et en même temps j'ai entendu ça et j'ai... Je garde une sensation, par contre, très forte. Voilà, c'était un très beau moment.
Je vais la laisser parler, en fait. Ça va être mieux.
Mais oui,
un retour de spectateur.
C'est important aussi de voir comment on l'a reçu. Je trouve ça intéressant de se dire, en fait, c'est toutes ces choses-là ensemble, quoi.
C'est ça.
Le but du jeu, c'est surtout pas de deviner quelle odeur, c'est de se laisser bercer.
Et ça marche très bien. Déjà, quand on entend la voix de Raphaël à la radio, j'imagine. Donc, avec tout ce qu'il y a autour, encore plus.
Bon, je redonne date, heure, toutes les infos. Parce que c'est presque la fin de l'émission, on a un peu de temps. Le spectacle, c'est Des gourmandises sur l'étagère. Donc, la compagnie La Sensorielle. Raphaël Dalen, vous l'avez mis en scène et vous êtes sur la scène.
C'est ça. Je me suis fait aider par plein de copains, mais je pourrais les citer. Qui c'est qu'il y a eu ? Par exemple, il y a Jacques Templereau qui devrait venir, parce que je continue à demander l'œil extérieur, parce que je fais très peu de choses, mais les petites choses, elles sont très importantes.
Ouais, le travail d'équipe.
Voilà, puis il y avait Mathieu Delaunay qui a fait le son, il y a Jean-Michel Noël qui a fait la lumière et qui s'occupe de la vidéo, mais eux, ils sont aussi mes retours, voilà. Qui c'est qu'il y a eu d'autres dans les différentes résidences et les différents lieux, je demande toujours aux gens leur ressenti. Voilà. Et puis il y a des choses qui se dégagent très vite. Et en fonction de ça, on module.
Spectacle de sensation. Donc ce sera le 26 octobre, samedi à 21h, Des gourmandises sur l'étagère, au Centre culturel Jean Carmet. Peut-être que vous venez de nous rejoindre dans l'émission, vous ne savez pas encore où c'est. Maud, il y a encore d'autres dates à venir ?
Oui, après début novembre, on reçoit l'exposition des artistes de Muré-Rigné, donc c'est la 33e édition. Et cette année, on accueille l'artiste Olivier Anisset qui anime cette semaine des ateliers avec les scolaires de Muré-Rigné d'ailleurs. Voilà, un artiste qui est maintenant en Sarthe, mais qui a longtemps vécu à Paris et qui a un superbe univers très coloré dans ses dernières créations, assez urbain. Il vient un peu de cette culture-là, du grave, Et on vous invite à venir le découvrir et puis à découvrir tous les artistes qui s'exposent. Voilà, c'est une fenêtre d'expression pour les artistes amateurs en art plastique et artisanat d'art de la ville. Et puis après, mi-novembre, les 15 et 16 novembre, on reçoit le Mega Soundfest Festival, donc festival de métal. Là, pareil, les places partent vite. Ça se remplit très très vite, donc si vous êtes intéressé, faut réserver, faut penser à réserver.
Tagada Jones, No One Is Innocent, Ultra Vomit, Les Ramoneurs de Menhir, tout ça, une clique, je maîtrise pas trop.
Et c'est chouette que des lieux ils passent des gourmandises aux spectacles pour enfants à ça, moi je trouve ça fait du bien.
Ouais, et nous on se retrouve à l'antenne le mardi 19 novembre. Toujours pour parler du Centre culturel Jean Carmet. Jacques Livenet, merci beaucoup.
Eh ben merci à vous.
Le bal des petites bêtes, c'est le 24 octobre.
À 10h30.
C'est ça. Et Raphaël Dalen, merci.
Merci à vous.
Le 26 à 21h, des gourmandises sur l'étagère.
Et en plus, c'est pas cher. On est à 8 euros en tarif plein, 6 euros en tarif réduit. Donc vraiment, ça, la découverte, faut tenter la découverte.
Oui, et pour le bal des petites bêtes, c'est un tarif unique à 5 euros.
Voilà.
Dans les deux cas, on peut venir. Et voilà. On devrait venir. On vous recommande de venir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À vous qui nous écoutez. À 19h, nous sommes mardi. Vous allez retrouver Tendance à me plaire. Et nous, on se retrouve demain pour parler art visuel et art plastique avec le collectif OKZK. Bonne soirée. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.